378 par Parachat Korach. On va développer un petit peu autour de Rashi. Bon, allez, monsieur Bichut, on y va. Donc, comme a dit Yonel tout à l'heure, quand on lit la Parachat Korach, on se rend compte que ce qu'on nous raconte n'est pas suffisant. Et qu'on a du mal à comprendre comment ça se fait que l'histoire a pris des proportions tellement grandes pour une histoire qui a démarré à la base, a priori, c'est une petite histoire de famille. Comment ça a pris des proportions tellement grandes et à la fin on a plus de 250 morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un problème, quelque chose qui s'est passé. Donc ça veut dire qu'il y a un certain enjeu qu'on a envie de comprendre, que a priori la Torah ne nous raconte pas. Rashi nous raconte un petit peu. Bon. Alors on va lire ensemble d'abord le pasuk. Vaikar Korach, Ben Itzhar, Ben Kehat, Ben Levi. Le verset nous donne déjà certaines indications. Il nous dit que Korach est venu, il a pris. Korach était le fils de Itzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi. Donc on nous donne son affiliation. Son affiliation jusqu'à Lévi, qui était le troisième fils de Yaakov.
Dis-moi, qui régit là, ce type, alors?
Qui?
Korach?
Eh ben, il a, c'est le fils de Itzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi.
Oui.
Ça veut dire que Lévi, c'est trois générations en arrière.
Que ça?
C'est beaucoup, déjà.
Oui, je trouve que c'est... Il a 250 ans, au moins.
Ah non,
non, il doit avoir 150 ans.
Pourquoi 150 ans? Il s'est descendu en esclavage.
Oui.
Non, c'est... pour moi ça joue, là, c'est pas...
Il a 70 ans, ça prend ans.
Non, mais il pose une bonne question.
Moi, j'ai revu les 100 fois, il a eu...
Lorsque l'esclavage a commencé, lorsque Yosef est Niftar.
D'accord.
L'esclavage a duré 210 ans.
D'accord.
Bon, là maintenant, ils en sont à la première année, ils en sont à la première année après la sortie d'Égypte. Donc on est à 211, 212. Quoi?
Je crois 90 ans.
Oui, d'accord, non, mais l'esclavage, je veux dire, en tout cas, depuis la mort de Yosef. Depuis la mort de Yosef, il y a 210 ans. Donc là, vous avez 4 générations. C'est bon, 4 générations?
Lui, c'est la 4e.
La 4e? Ça va, ça va.
En considérant qu'avant, il faisait des enfants quand il était jeune. Hein,
Bon. Ouais, c'est... Bon, ça, c'est pas choquant, en tout cas.
Bon, on va dire que c'est un bonhomme qui peut avoir la cinquantaine.
Oui, il doit avoir la cinquantaine, 50-60, ouais.
D'accord.
Alors, Vedatan va à Aviram. Il était accompagné de Datan et Aviram, Béné Eliav, les enfants de Eliav. De On ben Pelet, Béné Reuven. D'accord? Ainsi que On, le fils de Pelet, les deux étaient de la tribu de Reuven. D'accord? Donc on a déjà expliqué ça, je crois que c'était il y a 2 semaines. On avait expliqué que c'était les voisins. C'était les voisins de la tribu de Reuven et que malheureusement il y a un impact, le mauvais impact du voisinage. Bon. Mais c'est pas sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Aujourd'hui on va essayer d'abord de s'arrêter un petit peu sur Korach. Qui était ce personnage de Korach? Parce que tout ce qui s'est passé autour, bon, finalement c'est les gens qui l'ont suivi. Vous savez, c'est comme dans les partis politiques. Vous avez une personne qui lance un parti politique. Lui, il a quelque chose dans la tête. Maintenant, ce qu'il raconte aux gens, et la raison pour laquelle les gens le suivent, ça peut être une autre raison. Est-ce qu'on est d'accord? Lui, il a une chose dans la tête.
Il veut prendre le pouvoir, en vérité.
Et nous, on veut savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête. Maintenant, pourquoi les autres l'ont suivi? Qu'est-ce qu'eux avaient dans la tête? Ça, c'est pas nos affaires. Eux, ils ont suivi quelqu'un qui leur a raconté, qui leur a baratiné ce qu'il veut. C'est pas mon problème, ça. Moi, je veux comprendre qu'est-ce que Korach avait dans la tête. Qu'est-ce qui a pris Korach? Il savait pas à quoi il s'attaquait.
Il a pris quoi, d'ailleurs?
D'accord? Surtout que d'après beaucoup d'avis, cette histoire est racontée après l'histoire des explorateurs. Bon. Alors on verra après qu'il y a un rapport avec les explorateurs. Il y a un message.
La goutte d'eau.
Alors il dit comme ça. Rashi, donc on va prendre Rashi tout de suite. Vaikar Korach. Le premier Rashi. Parashazo yafe nidreshet bemidrash rabit antruma. Cette paracha, alors déjà, c'est assez bizarre, un fait assez bizarre. Rashi te dit, tu sais, cette paracha est très bien expliquée dans le midrash. Point. Je fais quoi, moi?
Tu l'as pas, en plus.
Alors, quand Rachid dit ça, ça veut dire qu'il veut nous prévenir que dans la suite de son commentaire, il va mettre beaucoup du Midrash. Il préfère te prévenir dès le départ. Tu dis, écoute, ne lis pas cette paracha texto, tu vas rien comprendre. Je préfère te prévenir que cette paracha est bien expliquée dans le Midrash. Et d'ailleurs, Rachid, après, plusieurs fois, va ramener des notions du Midrash. Bon. Alors, on va prendre le Rachid suivant. Vaikar Korach. Korach a pris. Quand on dit Korach a pris, littéralement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Korach a pris, littéralement, le problème, c'est que Vaikar Korach ici ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'on dit Korach a pris le fils de Itzhar, le fils de Kehat, le fils de Lévi. Et Datan et Aviram. Il a pris quoi? Le verset ne dit pas. Alors, le Targum Kelos, il traduit directement par Vaikar, il dit Veit Paleg. Korach, il s'est séparé. Sauf qu'en hébreu, la Kachat, vraiment en hébreu moderne, ça veut dire prendre. Donc il a pris quoi?
Il est parti de se séparer.
Alors ça, le verset ne nous dit pas.
En sociologie moderne, on dit qu'il y a les gens qui prennent et les gens qui donnent.
Oui.
Et c'est un terme générique, c'est-à-dire ils prennent pas quelque chose, de... ce sont les preneurs.
Alors, je pensais même en français, on dit qu'est-ce qu'il lui a pris.
Exactement.
Hein, qu'est-ce qu'il lui a pris prendre, quel rapport avec prendre.
Pour qui il se prend.
Pour qui il se prend, exactement. Se prendre pour.
Il y a les preneurs et les donneurs.
Alors, regardez comme Rashi explique. Parce que ça correspond, maman, ça correspond. Qu'est-ce qu'il dit Rashi ? La kar et tetmo le tzadechad. Il s'est pris d'un côté. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs côtés. Il y avait plusieurs, un côté à droite, un côté à gauche. Et lui, il s'est propulsé vers un côté. Voilà comment Rashi explique Veikar. C'est qu'il s'est pris et il a décidé de prendre un côté. C'est-à-dire que Rashi, c'est le Midrash qui dit ça. Il nous explique que dès le départ, dans chaque situation donnée, on peut la voir d'un bon œil comme d'un mauvais œil. Et c'est moi qui décide de quel côté je vais le regarder. Parce que là, il y a un événement. Parce que les événements ne changent pas. C'est ça ce qui fait la différence dans un pays entre les partis politiques. Les événements ne changent pas. Ce qui va changer, c'est la manière comment on analyse la chose. Il y en a un qui va analyser à droite, l'autre qui va analyser à gauche. Mais les faits restent les mêmes. Et donc Rashi nous dit que là, Korach avait un certain dilemme dans sa tête. Il ne sait pas trop aller à droite, aller à gauche, comment analyser les faits qu'on va expliquer. Et à un certain moment, Korach a décidé d'analyser les faits d'une manière négative. Donc ça veut dire que tout est dans sa tête. Parce qu'il aurait pu décider de les analyser autrement. C'est vraiment comme en politique. Donc la carte est smol et tsad echad, liot nechelak mitor aïda, leorer à la keuna. Regardez, chaque mot de Rashi est pesé. Rashi nous dit que Korach a décidé à un certain moment de se séparer de l'assemblée pour contester sur la keuna, sur la prêtrise. Ça veut dire que il y avait une sorte de consensus jusqu'à ce moment-là, même s'il y avait des gens qui étaient peut-être pas d'accord, mais tout le monde se taisait. C'est accepté que bon, Aaron c'est le Kohen, Moshe Rabbeinu c'est le patron, et c'est tout au point de la ligne, on se tait, c'est comme ça. Korach a décidé de voir les choses d'un autre angle. Hein, et dès qu'il a décidé de voir les choses d'un autre angle, automatiquement il s'est mis à avoir des problèmes partout. C'est-à-dire, tant que tu ne décides pas de voir les choses négativement, tu ne vois pas les problèmes. Dès que tu commences à vouloir chercher les problèmes, tu les trouves les problèmes. On le voit dans la vie. D'accord ? D'abord, Acher. Alors, Vezeu Shitirkem Onkelos, pardon. Je suis à la deuxième ligne. Avec ça, on comprend ce que Onkelos a traduit. Ve'it Palag. Vaikar, Onkelos traduit Vaikar par Ve'it Palag. Ça veut dire quoi Ve'it Palag ? Ça veut dire il s'est séparé. Dans le mot Ve'it Palag, on a le mot Peleg. Peleg, ça veut dire séparé, séparation.
Partagé.
Plag. Partagé. Nechelak, Mishar Aïda, Leachazik Bemachloket. Ça veut dire qu'il s'est départagé, il s'est différencié du reste de la communauté pour rester dans la Machloket. Ça veut dire que Rashi nous fait comprendre entre les lignes que apparemment ce problème n'est pas nouveau. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a ce problème, que les gens disent pourquoi moi.
Il a
pourquoi
créé un parti.
D'accord.
Parti politique.
Parti. Parti.
Parti. Oui,
oui. Rashi nous apprend que, écoutez bien, que c'est pas d'aujourd'hui le problème. Sauf que quoi, les gens avant apprenaient à se calmer. Dès que les choses commencent à prendre des proportions, ils disaient, bon, écoute, on va pas faire les marloquettes, on se retire. Et lui, c'est le premier qui a dit, non, pourquoi je me retire? Je continue, au nom de la vérité. C'est pour ça que le mot vaïkar, ça veut dire qu'il a décidé de se séparer de tout le monde. Que tout le monde, dès qu'ils avaient un problème, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, bon, j'ai un problème. Bon, on laisse passer, on verra après. Lui, Korach, lui, qu'est-ce qu'il dit? Korach lui dit, non, je continue. Les hamshir be marloquettes, comme il dit ici. Les achazik be marloquettes. Gardez la marloquette. Vechen, de la même manière, alors ça c'est intéressant parce que je vous dis en français on dit la même chose, Maïkaracha Libecha. Il y a un proverbe dans Michelet qui dit, qu'est-ce que ton cœur t'a pris? Qu'est-ce qu'il y en a pris à ton cœur? Vous voyez, ça vient d'ici. Je sais pas, c'est intéressant en français depuis quand on donne cette expression. Prendre à cœur par exemple. D'où ça vient ça? Prendre à cœur.
Prendre pour soi, prendre...
Prendre à cœur, ça se dit en français, oui. J'ai pris à cœur. Ouais. Prendre à cœur, ça veut dire quoi? Alors Rashi explique ce que ça veut dire prendre à cœur. Maintenant, on va comprendre la définition. Il dit ça veut dire quoi prendre à cœur? Prendre à cœur, ça veut dire que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais on les laisse passer. Et quand je décide de prendre un certain élément et de lui donner de l'attention et je décide que cette attention ne s'en aille pas, ça s'appelle que j'ai pris à cœur.
Il en a fait une affaire personnelle.
C'est pris, il lâche pas.
Je ne la lâche pas. C'est comme Korach. Alors c'est valable dans le bien. Mais c'est valable aussi, Dieu préserve dans le mal. Quand quelqu'un il décide de ne pas lâcher quelqu'un, il s'acharne. C'est plus que l'acharnement, ça veut dire qu'il a décidé de se séparer de tout le monde, ce que Rashi veut dire ici. C'est que tout le monde en général, bon, ils ont vu la chose passer, ça passe, bon, après ça passe. Je lui ai dit non, moi j'ai pris à cœur, je prends ça.
D'accord. Il a un problème avec Aaron, avec les Cohen.
Oui.
C'est ce qu'on dit là.
Il a un problème, mais comme Rashi explique, apparemment ce problème, Korach n'est pas le premier à l'avoir.
Mais si Rashi évoque le problème, c'est que le problème existe.
Bien sûr qu'il existe. Ah, c'est clair qu'il existe.
Mais dis-moi, pourquoi on lit pas de pshat, là?
D'ailleurs, c'est pour ça que Aaron, après, pour se défendre,
ouais.
La seule manière pour Aaron de se défendre sera d'invoquer Akadosh Baruch Hu, avec l'histoire de
bâton.
On appelle ça, du bâton, ouais. De l'encensoir. C'est-à-dire de montrer, de dire, écoute, tu as raison que logiquement parlant,
c'est pas moi qui ai choisi. J'aurais pu s'effacer, d'ailleurs, Aaron, tellement il est...
On n'a pas eu de dialogue, après. On n'a pas eu de dialogue qui s'en est suivi. On n'a pas de dictée avec Korach. Tout de suite, on a sorti les grosses armes. On a dit Dieu. À deux reprises, pour l'histoire des Ketoret, l'histoire, etc. Parce qu'on a voulu lui faire comprendre que logiquement, tu as raison. Surtout quand on lit le Midrash. Rashi va expliquer après plusieurs notions du Midrash. Donc, Vechen Maikar Khalibecha, Lokeach Otra, Leafligra, Mishar Adab. D'accord. Ça, c'est une première explication de Rashi. Donc, première explication de Rashi, ça veut dire quoi? Vaikar Korach. Ça veut dire que Korach a décidé de prendre ça à cœur. De s'occuper personnellement de cette histoire. De pas lâcher. D'accord? Ça, c'est la première explication de Rashi. Davar Acher. Dalet Alès, Davar Acher. Deuxième explication. Vaikar Korach, ça veut dire quoi que Korach a pris? Masha Rashi Sanedraot Shebaem Bidvarim. Quand on dit qu'il a pris, ça veut dire quoi prendre? D'accord? Ça veut dire qu'il a réussi à prendre du monde avec lui. À attirer du monde avec lui.
C'est ça le pshat que d'accord. Je disais.
Voilà. Donc, Vaikar Korach, ça veut dire quoi?
Celui-là.
Ça veut dire qu'il a été capable, pas seulement d'attirer les gens qu'on a dit ici, mais d'attirer également des chefs de Sanhedrin, c'est-à-dire des gens extraordinaires. Kemo Shenehemar, donc Bidvarim, avec ses paroles, parce que Korach, c'est quelqu'un qui parlait très très bien. C'était un homme qui savait faire des scandales, parce qu'il faut savoir. Il faut savoir faire un scandale, c'est pas comme ça. Hein? Exactement. Il sait parler. Bidvarim, comme Rachid dit, avec les paroles. Kemo Shenehemar, comme c'est écrit, Kach et Aaron. Dans un autre endroit, Dieu parle à Moshe et il lui dit prends Aaron. C'est-à-dire quoi prends Aaron? Je prends quoi? Je le prends.
D'accord.
On peut pas prendre quelqu'un. Comment tu veux que je le prenne? Je le prends dans mes bras. Rachid là-bas il dit non. Quand je dis prendre quelqu'un, ça veut dire avec les paroles. Ça veut dire achète-le. D'accord. Prends-le.
Influence-le.
Fais qu'il t'appartienne. Fais qu'il est de ton côté. Et Korach malheureusement c'est ce qu'il a réussi à faire.
Et si on
parle de Datan et Aviram ici, Datan et Aviram et les 250 qu'on parlera après, c'est seulement ses fans. C'était les fans de Korach. Mais ça veut dire que Rashi nous apprend ici qu'apparemment, il n'était pas le seul. Il y avait encore d'autres personnes qui étaient attirées. Et c'est pour ça que c'est devenu une histoire, une machloquette, pas seulement de 250 personnes. C'était une machloquette générale, parce qu'il a réussi à attirer du monde avec lui. Du monde qui, tu sais, la machloquette, ça attire beaucoup de monde. Bien sûr, exactement, juste après. Il y a eu contestation, et après il y a eu l'épidémie. D'accord? Bien sûr. De là, ça nous montre que c'est une histoire qui a fait du bruit. Bon. Qu'est-ce que Rashi veut ici, maintenant? D'accord? Qu'est-ce que Rashi veut ici? Pourquoi Rashi nous amène tout ça? Alors d'abord, on va voir l'argument de Korach. Alors, l'argument de Korach, on va lire un peu plus loin parce qu'on va pas tout lire, hein, sinon on n'aura pas là. Voilà. Ok. On va prendre, je crois que c'est la 10e ligne, 12e ligne qui commence par Al Nesiuto. Toujours dans Rashi. C'est Al Nesiuto? Je crois que c'est la 12e ligne, ouais. Ici, là, Al Nesiuto, vers un petit peu avant le milieu de la page. Al Nesiuto. Vous avez? Alors, Rashi nous dit la chose suivante. Donc, à la fin de cette ligne-là, il y a un point, et après ce point, on va lire. Amar Korach. Korach a dit la chose suivante. Donc, ça, Rashi ramène du Midrash, du fameux Midrash Shantrouma qu'on a dit tout à l'heure. Achi, d'accord? Achi Abba, Arba Ayu. Les frères de papa, ils étaient 4. Shenehemar, comme c'est écrit, Ouvne Kehat, etc. Donc ils étaient 4. Il y avait Amram, Itzar, Chevron, Kehat et Uziel. Donc il dit les frères de papa, ils étaient 5 dans la famille. Il avait 4 frères. Bon. Amram Abechor, Amram, qui était l'aîné, c'est compréhensible, Natnou Shlebanav Gdoula. Ces deux enfants ont pris la grandeur. Echad, d'accord, Echad Meler, Vechad Kohen Gadol. Il dit, c'est très simple. Il dit, bon, je veux bien comprendre que Amram, c'est le premier-né. Le premier-né, il a toujours, dans un héritage, il a toujours...
Deux parts.
Rachid ne le dit pas, mais enfin, c'est ce qu'on comprend. Il a toujours deux parts. Donc, puisqu'il a deux parts, je comprends que le premier-né, il va prendre deux postes. C'est quoi les deux postes que Amram a donné à ses enfants? Il a donné la royauté pour Moshe, parce que Moshe est le roi du peuple, un petit peu, enfin, le roi, le Nassi, et Aaron et le Kohen Gadol. Donc, jusqu'ici, il est d'accord. Pas de problème. Mais il dit comme ça. Il dit, Mira'u ilital et Tashnia. Il dit, mais je comprends pas. Il dit, n'est-ce pas que normalement, qui devrait prendre La deuxième, Lohani, Shani, Bani Hitzar, Shoucheni, Lamra. Il dit, je comprends pas. Il dit, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'après, on a voulu donner encore un autre poste. Et là, le troisième poste qu'on a donné, on l'a donné à une troisième personne qui n'a rien à voir avec Korach. Alors, il dit, stop. C'est-à-dire que logiquement, Korach avait raison, puisque Korach était le fils de Kehat. D'accord? Kehat était le deuxième enfant. D'accord? Donc, puisque Hitzar, pardon, est le deuxième enfant, donc il dit, c'est le deuxième enfant, donc je dois prendre un deuxième pas. Il a raison. Pourquoi le côté Amram a tout pris ça? Ils ont déjà pris deux parts, c'est déjà beaucoup de parts. Ils vont continuer encore à te donner à leur famille? Ils doivent donner à moi? Lohani, Shani, Benitzar, Sheu, Sheni, l'Amram. Vehu, Manan, Nessi, et Ben, Rivakatan. Or, je suis pas d'accord. Quand? Il a nommé le fils de son frère, ça veut dire il a nommé le petit, enfin, il est ici une genre de famille, quoi. Ouais, d'accord?
Pantouflage, ça s'appelle.
Le quoi?
Pantouflage.
Pantouflage, bon.
Népotisme.
Alors, il dit, ouais, népotisme, je connaissais.
Aujourd'hui, c'est comme ça encore.
Il dit, Areni, Cholek, Alav. Je suis en marloquette sur lui, ou Mevatel, et Devarav. Et j'annule, et Devarav, j'annule ses paroles. Maasa, ça c'est Midrash toujours qui raconte. Qu'est-ce qu'il a fait? Amad Vekines, Reshnoud, Rachesh Sanidraot. Il s'est levé, et il a rassemblé 250 chefs de Sanhedrin. Rovan, Mishefed, Reuven. La majorité de ces chefs de Sanhedrin appartenait à la tribu de Reuven. Shrenev, qui était ses voisins. VM, Elitzur, Ben Shedeur, Vachavera, Vekayutsebo. Donc c'est Elitzur, Ben Shedeur, etc. Shenemar, comme c'est écrit, Nessie et Dakri et Moed, Oulalan, Oumer et Lekried. Donc ça veut dire en vérité, dans la paracha de la semaine dernière, on apprend déjà que c'était déjà important. Qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, Korach, en tant que bon politique, il sait très bien qu'il faut un symbole. Tu peux pas venir comme ça attaquer, il faut un symbole pour attaquer. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Veil Bishan Talitot Chekulam Trelet. Il leur a dit, vous allez tous mettre un Talit avec uniquement du Techelet. Quatre fils, tous les fils de Techelet. Tout Techelet, partout du bleu azur. Parce qu'on vient d'apprendre dans la parasha la semaine dernière, les titites. Mmh. Vous voyez? Bon. On vient de dire qu'apparemment...
C'est un midrash, hein.
Attendez, c'est logique.
Oui, oui.
On vient de dire que c'est une mitzvah qui est toute fraîche, la mitzvah des titites. Mmh. Les titites, on vient de l'apprendre. Donc, en tant que bon politicien, qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qu'il sait en tant que bon politicien? Attendez, il sait qu'il faut prendre quelque chose d'actualité, et il faut avoir un symbole. Donc il a pris l'actualité. L'actualité de l'époque, à ce moment-là, c'était quoi? C'est les titites. Donc il a pris un sujet d'actualité, et il leur met à tous des titites. Maintenant, le titit, il a fait le talit, oui.
C'est le vêtement.
Le talit, tout est en techelet. D'accord? Alors, il pose la question, tout est en techelet. Il pose la question, donc il arrive avec un vêtement entièrement en techelet, en bleu azur. Très bien. Et il va voir comme ça, donc tout s'habiller comme ça, avec le symbole comme ça, le t-shirt, tu vois, le t-shirt du club. Et, Baou, Bamdou, Lifte, Moshe. Ils viennent tous devant Moshe. Avec ce talit. Amroulo, ils lui ont dit. Talit chez Koulash El Techelet. Traïvet du Titit Obtorium. On a une question à te poser, Moshe. Notre Talit, notre vêtement, est entièrement en Techelet. C'est entièrement en bleu azur. D'accord? Non, pas Titit. Est-ce que je dois mettre les Titit? Est-ce qu'on a mettre les Titit ou on n'a pas mettre les Titit? Alors, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a répondu? Il leur a dit à Marlem, il leur a dit, Traïvet. Il a dit, mais, je suis sûr que vous avez l'obligation que ça change. Le vêtement, il peut avoir la couleur que vous voulez. Dès qu'il a 4 coins, on doit mettre les Titit. C'est fini. C'est quoi la question? Alors, ils trilou les Sachek à la. Ils ont commencé à se moquer de lui. C'est-à-dire qu'en vérité, c'était pas la réponse qu'ils attendaient. Ils n'attendaient pas une réponse. Ils voulaient se moquer de Moshe. Efshar talit shelmin echad, shelmin acher, chut echad shel trelet potra, zo shekula trelet iftar otasna. Il dit, mais je comprends pas, c'est pas logique, il y a un problème. Il dit, si tu as un vêtement qui est entièrement d'une autre couleur, avec un fil que tu mets ici dans le coin de trelet, il renquitte tout le vêtement. Tu dis, le vêtement, il est cachère. Si tout le vêtement est en trelet, il ne peut pas se rendre quitte tout seul. D'accord? Alors qu'est-ce qu'il y avait derrière l'argument de...
Que t'as inventé des trucs.
Hmm? Qu'est-ce qu'il y avait? Non. C'est quoi le fond de l'argument? Comment vous comprenez l'argument?
C'est un contre-dieu quelque part. Parce que c'est Dieu qui a exigé qu'il y ait...
Compris. Mais pourquoi ils ont donné cet exemple? C'était quoi le symbole? C'était quoi le message qui est derrière? C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'il y a avec ce talit?
C'est un
leader. Oui. Très bien. Bien, bien, oui. Eh bien, oui.
Mais tous des leaders.
Techelet, c'est le leader. Il a raison, c'est leur message.
C'est le leader.
Vous allez leur bien expliquer. Techelet, c'est le chef.
Pourquoi?
D'accord? Parce que le Techelet, c'est la classe, c'est celui qui rend cachère tout le monde.
D'accord.
Il dit, mais je comprends pas, on est tous des Techelet. On se rend qui tout seul, on n'a pas besoin de toi? On n'a pas besoin du chef? Moshe, c'était le Techelet, c'était le Titi du vêtement. Celui qu'on respectait, qu'on embrasse, qu'on chérit.
On veut la démocratie.
D'accord? Lui, il dit, écoute, on a tous entendu la même parole. Dans tous nos vêtements, il dit Techelet. Donc c'est fini, c'est cachère, que si nous. D'accord?
Ils ont reculé, ils ont fait des titites, ils ont simplement mis la couleur.
Rachid n'amène pas le deuxième exemple, il y a un deuxième exemple aussi que le Midrash ramène là-bas, la Mezouza.
Ouais. Alors qu'il y a un Sefer Torah.
C'est la même chose. C'est le même exemple. D'accord? C'est quoi l'exemple de la Mezouza? Ils lui ont demandé, ils ont dit, est-ce qu'une maison dans laquelle il y a un Sefer Torah, est-ce qu'on doit mettre une Mezouza? C'est la même question. Alors, bien sûr, ma chère dit oui, on doit mettre la Mezouza, bien sûr qu'on doit mettre la Mezouza. Il dit, mais je comprends pas, on doit mettre la Mezouza, mais c'est pas logique. Si une paracha du Sefer Torah est capable de rendre quitte une maison, à plus forte raison que le Sefer Torah peut rendre quitte tout seul la maison.
Bien sûr.
Encore une fois, la logique est la même. C'est quoi la logique? La logique, c'est que eux, ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de séparer. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de séparé, d'avoir un titi qui est séparé, d'avoir une mezouza qui est séparée. Kola et d'akulam kadoshim, on est tous kadosh, on est tous bien, il n'y a pas de problème, on est irréprochable. D'accord? Moshe Rabbeinu, lorsque Moshe Rabbeinu entend ça, est très embêté. D'accord? Je vous raconte une petite histoire d'Admor
Hazakhan. Est-ce qu'il vacille lui-même sur ses opinions?
Donc, ils se rassemblent sur Moshe, ils se rassemblent, donc ils viennent tous ensemble sur Moshe Soharon, c'est une vraie histoire politique. D'accord? Ils arrivent, ils disent, tout le monde est kadosh, je comprends pas pourquoi, on comprend pas pourquoi le troisième poste n'a pas été donné à Korach. D'accord. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est que, à la base, toute cette histoire a démarré parce que Korach briguait un poste. C'est ça qui a démarré l'histoire.
Il était déçu.
D'accord. Mais après, pour répondre à la question de Lionel, après qu'est-ce qui s'est passé? Après, les gens qui l'ont suivi, la raison pour laquelle ils l'ont suivi, ils ont dit oui c'est vrai, nous aussi on veut un poste. Mais ils n'ont pas suivi Korach. D'accord? C'est-à-dire que Korach, en vérité, la raison officieuse pour laquelle Korach voulait se lancer, c'est parce que Korach était dérangé qu'on ne lui ait pas donné le poste. Maintenant, officiellement, il ne disait pas ça forcément aux gens. Qu'est-ce qu'il disait aux gens? Les gens, si vous n'avez pas remarqué, Moshe Rabbeinu, il prend tout pour lui.
C'était tous des chefs.
D'accord? Ça veut dire que c'est comme dans la politique. Il faut voir ce que le politicien, il veut, et il faut voir ce qu'il dit. C'est pas la même chose. En général, c'est pas la même chose. On est d'accord? Bon. Alors?
Le temps entre les raglis, mais c'est quoi?
D'après le Midrash, c'est tout de suite après.
Tout de suite après.
Alors, regardez maintenant ce qu'on va expliquer. Korach est très Korach arrive chez Moshe. Moshe est très embêté parce qu'il sent que en quelques mois, je ne sais pas si vous avez remarqué tous les scandales qu'il y a eu en quelques mois. D'accord? Il y a eu l'histoire du veau d'or. D'accord? Après on a fait le Mishkan, après on a eu Nadav Aviou qui sont morts. Qu'est-ce qu'on a eu encore? On a eu la mort de Myriam dans la paracha de Béalotra. D'accord? Qui a dit la Shonara. Juste après on a l'histoire des explorateurs. Et juste après, on a l'histoire de Korach qui vient qui attaque. Enfin, un peu après ou un peu avant. Et tout ça, c'est en quelques mois.
Ils ont le mauvais deuil.
Là, c'est... Ils viennent de sortir d'Égypte, ça fait même pas un an et demi.
Ils sont une sale affaire.
Bon. Alors, nous dit le Passouk. Quoi? Il y a un problème, là. Il faut... problème chez l'Ambaït, là. Alors, attendez.
Il faut que l'autorité règne. Et là, elle est en train de s'étioler.
Je vais vous donner un joli commentaire que j'ai lu pour illustrer tout ce que je viens d'expliquer. Alors là, qu'est-ce que dit le pasouk après? Vaishma Moshe Vaipol Alpanav. Moshe Rabbeinu entend ça. Vaipol Alpanav et Moshe Rabbeinu, dès qu'il entend cette histoire, Vaipol Alpanav, Moshe Rabbeinu Vaipol Alpanav, ça veut dire qu'il tombe sur son visage. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, écoutez, Boker Vieda Hashem et Tacherlo, demain Dieu dira qu'il arrive. Nous, d'après vous, pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il entend ça, il tombe sur son visage?
Tombe sur sa face.
Il peut plus. Il a défendu trois fois les Israël, il peut plus les défendre.
Parce qu'il n'en peut plus?
Non, il peut plus aller vers Dieu,
défendre les Israël.
D'accord. Trois fois je suis parti, maintenant je ne peux plus.
Pourquoi il leur dit demain je vous donne la réponse?
Parce que la nuit pour conseil, faut qu'ils vont réfléchir.
La nuit par conseil, parce que Moshe Rabbeinu la nuit pour faire des conseils.
Non.
Pour eux.
Quand il va réfléchir, peut-être que demain matin il serait en disant j'ai fait une bêtise.
Pourquoi Moshe quand il entend ça, il donne pas sa réponse tout de suite?
Parce qu'il va leur laisser le temps de réfléchir.
Le temps de réfléchir, d'accord.
Parce que là, c'est sûrement un doute sur. Sûrement un doute, peut-être. Alors, regardez. C'est des chefs, c'est Korach, peut-être qu'il a raison quelque part.
Ah, très bien, bon point. Je vais vous raconter une histoire.
On sait jamais.
Je sais pas si j'ai raconté cette histoire.
Je vais me tromper.
C'est une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir l'Admor Hazaken, l'auteur du Tania. Il est venu le voir, et il lui a dit, donc quelqu'un qui était pas du tout chassid, hein, Rav, mais qui était même contre le chassidisme, qui respectait l'Admor Hazaken. Il est venu voir l'Admor Hazaken pour discuter de Torah avec lui. Après, il lui a dit, écoutez, j'ai une question à vous poser. Oui. Comme votre question. Bon, vous savez, quand quelqu'un vous dit j'ai une question à vous poser, ça veut dire que c'est délicat. Ça veut dire qu'il va attaquer. Il dit, posez votre question. Il dit, je comprends pas. Comment ça se fait que vos chassidims vous donnent beaucoup de kavod? Je comprends pas. Comme c'est l'idiot de Morazaken. Il dit, je comprends pas. Pourquoi vos chassidims vous donnent beaucoup de kavod? Je vois, il y a un gardien à la porte, on s'occupe de vous, et le rabbi, et le rabbi, et le rabbi, et le rabbi. Je comprends pas. Pourquoi on donne tellement de kavod? Alors, l'Admor Hazaken, il entend ça, il pose sa tête sur ses mains, il réfléchit quelques instants, d'accord? Non? Et il lui répond. Il lui répond, je vais vous expliquer, il lui dit, c'est pas compliqué, il lui dit, vous avez remarqué dans un corps, il y a plusieurs membres, et vous avez certainement remarqué que le membre qu'on préserve le plus, c'est quoi? C'est la tête. Pourquoi? Parce que plus un membre est important, et plus il a besoin d'être protégé, d'être préservé. Donc il a expliqué, il lui dit, je parle pas de moi, mais si vous posez la question en général sur les tzadikim, bah, il faut savoir qu'un tzadik, c'est comme la tête, donc c'est pour ça qu'on doit le protéger, on doit le préserver, etc. Bon. D'ailleurs, en passant, c'est la différence entre les... La différence entre les curés et les rabbins, c'est que les curés, ils sont très très bien habillés dans le corps, mais la tête, elle est rasée. Mmh. Alors que chez les rabbins, c'est le contraire. Le chapeau, c'est toujours un très beau chapeau, et le reste, parce que ce qui compte, c'est la tête. Alors, donc il dit, voilà, il dit, c'est la raison pour laquelle on donne beaucoup de kavod aux rabbiniers. Bon. D'accord? Le rav accepte. Mais comme dit Yonel, un rabbi, c'est le Roche Béni Israël, c'est le dirigeant, c'est la tête. Rabbi, c'est Roche Béni Israël. Le rav entend ça, il accepte, il s'en va. Qui était témoin de la scène? Le fils de Morazakem. Bon. Dès que le rav est parti, il attend que le rav est parti, moi, qu'il n'y a plus personne dans la salle. Alors son père lui dit, écoute, non, pas ça. Il dit, papa, la réponse que tu lui as donnée, c'était facile comme réponse. T'as pas besoin de réfléchir pour donner cette réponse. Pourquoi t'as posé ta main sur sa tête pour réfléchir? Il dit, bon, lui, peut-être il a cru que t'as réfléchi, mais moi je te connais, cette réponse est...
C'est dans un tiroir tout près, déjà.
C'est rien pour toi. T'as pas besoin de réfléchir pour donner cette réponse. On a dit, je vais t'expliquer. Il a repris l'histoire de la paracha cette semaine. Il a dit, lorsque Korach est venu pour voir Moshe Rabbeinu, parce que tu nous dis que Vaishma Moshe Vaipol Alpana. Moshe Rabbeinu, il entend ça, il tombe sur sa face et il dit, demain Dieu va répondre. D'accord? Il dit, tu crois que Moshe Rabbeinu, il a pas compris tout de suite avec qui il avait affaire? Il est de sa famille, Korach. Tu crois qu'il a pas vu arriver? Tu crois qu'il sait pas avec qui il a affaire? Tu crois qu'il sait pas qu'il a affaire avec quelqu'un qui est là en train de lui faire la marque-loquette? Depuis le début, il a compris ça. Avant même qu'il arrive, il savait qu'il allait arriver. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu a réfléchi? Parce que Moshe Rabbeinu, il s'est dit, lorsque Korach est venu, Moshe Rabbeinu s'est dit, c'est vrai que Korach, lui, c'est un tocard. Là, c'est clair, ça. Mais peut-être que Dieu fait passer un message par lui. Peut-être qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. C'est possible. Ça veut dire, c'est vrai que le messager, bon, et lui, il le fait parce qu'il veut chercher des problèmes. Ça, c'est clair, ça, j'ai aucun doute. Mais peut-être que le message qu'il dit, peut-être qu'il y a du vrai dans le message. Alors je dois écouter. Alors Moshe Rabbeinu, il a réfléchi. Toute la nuit, il a réfléchi. Il a réfléchi, il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un message vrai dans ce que Korach est en train de me dire? Est-ce que peut-être j'ai pas pris trop de position? Est-ce que peut-être, Moshe Rabbeinu, que la Torah nous dit que c'est le Hanav Mikol Adam, le plus humble des hommes? Est-ce que j'ai pas pris un peu trop de position? Est-ce que j'ai pas un peu trop d'orgueil? Moshe Rabbeinu a réfléchi. Et à la fin de la nuit, il arrive à la conclusion que non. Qu'il n'y a rien à te reprocher. C'est fort, la conclusion. D'accord? J'ai rien à me reprocher, je suis clean de chez clean. C'est seulement le lendemain qu'il a dit, bon, maintenant on va régler les comptes, maintenant Akadosh Baruch Hu va régler cette histoire. Tant qu'il n'était pas persuadé qu'il n'y a rien à se reprocher, il ne pouvait pas dire Hachem va régler cette histoire. Il a dû réfléchir. Et c'est seulement une fois qu'il a réfléchi, qu'il n'a rien à se reprocher, c'est là qu'il a dit, bon, maintenant Dieu va régler cette histoire, et c'est pour ça qu'après quelques heures, l'histoire était réglée. De là, on apprend quoi? De là, l'Admor HaZaken a répondu, il a dit à son fils, il a dit, c'est pour ça. Sora va venir me voir. Il m'a dit, pourquoi on vous donne du kavod? Il dit, bon, j'ai tout compris qu'il est venu, qu'il voulait me chercher des problèmes, qu'il voulait me casser. Enfin, j'ai pas compris avec qui j'avais affaire, j'ai compris avec qui j'avais affaire. Mais je me suis dit, peut-être qu'il y a du vrai dans ce qu'il dit. Et c'est ce que j'ai fait dans les quelques secondes que j'ai réfléchi. J'avais pas pris la nuit. Bon, parce que là, c'était peut-être plus évident. Il n'y avait pas 300 personnes sur sa tête, il était une personne.
Bon, il n'est pas moché non plus.
Pas moché. Au contraire.
Il y avait un, il n'y a pas de 250.
Voilà, c'est ce que j'ai dit, il n'y a pas de 250.
Alors, tu divises la durée de la nuit par 250, ça fait des...
Quelques secondes.
Excusez-moi, il y a une question qui se pose dans la paracha précédente.
Oui.
C'est un des miracles qui explique justement qu'une des raisons pour lesquelles les Américains n'ont pas voulu rentrer en Israël, c'est pour ne pas se séparer de Moshe Rabbeinu.
Oui. D'accord. On a dit ce matin, oui.
Donc, est-ce que la réponse à ça, c'est pas une partie des Bnei Israël qui disent à un moment donné, on n'est pas rentré en Eretz Israël parce que, à cause de Moshe Rabbeinu, ce qui n'est pas temps effectivement de dire.
Pause.
Allons-y, et séparons-nous de Moshe
Rabbeinu. Ça c'est dans la page la semaine dernière, on nous raconte qu'il y a des gens qui ont voulu monter à la montagne, etc., qui ont voulu partir. C'est des gens qui ont...
Non mais ça veut dire remettre en question, comme Korach le fait, le statut de Moshe Rabbeinu.
C'est pas ce que Rachid dit en tout cas. C'est pas le problème que Rachid dit. Rachid dit que le problème était ici un problème de pouvoir.
Ouais, je sais pas.
C'est un problème de pouvoir. Alors, je voudrais finir avec ce dernier point. Donc vous voyez qu'avec ça, on comprend que si Moshe Rabbeinu a dû réfléchir ici, la Torah nous raconte tous ces détails, c'est parce qu'on veut nous montrer que Moshe Rabbeinu a beaucoup réfléchi à ça. Et même si c'était évident qu'il avait rien à se reprocher, il s'était quand même réfléchi. Je voudrais terminer avec ce dernier point. On a dit que d'après le Midrash, d'ailleurs d'après la logique, la paracha de Korach s'est passée après la paracha des explorateurs. Qu'est-ce qu'on expliquait dans le cours la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on reprochait aux explorateurs? Aux explorateurs, on leur reprochait qu'eux ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël puisqu'ils ne voulaient pas avoir un lien avec le monde de l'action. On avait expliqué la semaine dernière. Eux, ils préféraient rester dans le désert, tranquille, quand, avec la manne, avec l'étude de la Torah, avec le meilleur prof possible, Moshe Rabbeinu, etc. Ils étaient tranquilles, que ceux qui se prennent la tête, à aller devoir se battre. Pas besoin, on préfère rester dans le désert. Et c'était ça le message que Kadosh Baruch Hu leur a dit. L'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'il faut, il faut avoir un rapport avec le monde de l'action. Alors j'ai lu un commentaire très joli du Ravi, je voudrais finir avec ça. Moi, on a dépassé un petit peu, excusez-moi, vous m'en voulez pas. Qui dit la chose suivante. Qui dit, la lettre He, à quoi ça correspond la lettre He? Quand ici, vous voyez, on a le He. Le graphique de la lettre He. Le He, la barre d'en haut, ça représente la pensée. La barre de droite, d'accord, représente, non, de gauche, pardon,
de droite, pardon, oui.
La barre de droite représente la parole, puisque la pensée est directement liée à la parole. On dit ce qu'on pense, d'accord, et on pense ce qu'on va dire. Seconde. Et la petite virgule qui est en bas, enfin la petite ou grande virgule qui est en bas, c'est l'action. Et vous remarquez que l'action n'est pas liée. Pourquoi l'action n'est pas liée? Parce que penser, c'est facile. D'accord? Dire ce qu'on va faire, c'est facile aussi. Mais par contre, faire, c'est beaucoup plus difficile. D'accord? Il faut toujours avoir un laps de temps dans lequel on réfléchit comment on va faire. Bon. Maintenant, regardez ce qu'on va faire. On va reprendre maintenant les trois lettres du mot Korach. Reprenez le Korach. Regardez dans votre roumage qui est devant vous, Korach. On va prendre le Kouf. Graphiquement, le Kouf ressemble au Hé. Sauf que c'est quoi la différence? L'action descend plus bas. C'est-à-dire qu'on a donné trop de place à l'action. On va prendre le resh. C'est quoi le resh? Il n'y a pas d'action. Et on va prendre le chet. C'est quoi le chet?
Il y a trop d'action.
Non, c'est pas qu'il y a trop d'action. C'est que l'action est liée trop rapidement à la pensée. D'accord? Il n'y a pas d'espace, on n'a pas réfléchi.
Ça a été trop vite.
Je répète. C'est bon? C'est trop vite?
Ça va, il ne tombe pas très vite.
Regarde. On va prendre le hé. Tu vois le hé? Par exemple, dans le mot Yitzhar, tu as un hé. Tu as la barre du haut, c'est la pensée. D'accord? D'accord. Maintenant, c'est quoi Korach? C'est quoi le nom de Korach? Dans le nom de Korach, c'est tout est tordu.
Oui.
Vous suivez? On va commencer par le plus simple, par le chet. D'accord? Par le chet, c'est quoi le chet? Le chet, c'est tout est lié. Ça veut dire que normalement, chez une personne, il doit avoir une certaine différence entre la pensée, la parole, et de l'autre côté, l'action. Puisque l'action représente le matériel, alors que la pensée, la parole, c'est plutôt spirituel. Et on le voit, d'accord? Et donc la Torah nous dit que ça doit être deux choses différentes, deux choses distinctes, et c'est deux mondes différents. Qu'est-ce que dit Korach? Korach avait tout faux. Korach avait trois pistes, et trois pistes sont mauvaises. La première piste, c'est le Kouf qui dit, on va donner une place prépondérante à l'action et que l'action. D'accord? Et tout le reste, ben, c'est pas grave, l'action va descendre plus bas, ça c'est pas bon. Le reste, c'est celui qui dit, on donne pas du tout de place à l'action. Et c'est pour ça que c'est la lettre centrale, puisque ça c'était l'argument principal des explorateurs. Le resh, d'accord? Et on a enfin le chet qui dit, ok, alors on va donner de la place à l'action, mais l'action est directement liée à la pensée, à la parole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un laps de temps, on ne montre pas que c'est deux mondes.
Dans le nom de quelqu'un, tu peux savoir...
Ça veut dire quoi?
Ouais.
D'accord? Non, le nom de la paracha, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi?
Il n'y a pas la barre chez toi, du tout.
Ça veut dire que ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande,
tu penses pas.
Akadosh Baruch Hu nous demande, Chas v'shalom.
Chas
v'shalom, il fixe ça.
Pensée, parole, action.
Akadosh Baruch Hu, ce qu'il nous demande, c'est qu'il y ait une harmonie parfaite entre la pensée, la parole d'un côté et de l'autre côté l'action.
Si vous, je te rajoute un
quand vous avez des personnes qui font que la pensée, la parole, ou de l'autre côté des gens qui font que l'action, c'est pas bon. D'accord? Il faut les deux, il faut le juste milieu. Et c'est ça la réponse de Korach. Qu'est-ce que Korach a dit? Comment Korach est arrivé à son erreur? Pour arriver à la question de Lionel. D'accord? Juste deux secondes. Comment Korach est arrivé à son erreur? Korach n'a pas compris que la seule personne qui nous permet d'arriver à l'harmonie parfaite entre le spirituel et le matériel, c'est le Moshe Rabbeinu. La seule personne qui nous permet d'avoir une harmonie parfaite entre la barre du haut, la barre de la droite et l'action, le spirituel et le matériel, c'est Moshe Rabbeinu. Et que si on ne suit pas Moshe Rabbeinu, on va se trouver avec soit une barre qui descend trop bas, ou soit sans action, ou soit on est tordu. C'est ça le message. C'est que si on suit pas Moshe Rabbeinu, dans Moshe Rabbeinu on a le hé aussi. Si on cite à Moshe Rabbeinu, on ne cite pas cette structure, on est tordu, et automatiquement, on n'a pas la possibilité d'être structuré.
Plus jamais personne ne s'est rappelé.
Je pense pas. Je pense pas. J'ai pas vu une personne qui a nommé son fils Korach.
Et Yoshua Binoun et Caleb, c'était des juifs.
Yoshua Binoun, c'est Sadik, bien sûr.
Alors, Caleb.
Caleb, ça veut dire...
Chez les protestants, il y a beaucoup de Caleb.
Caleb, ah oui. Moi, j'ai vu en Israël Caleb en tant que nom de famille. Il y a un rabbin qui s'appelle Rav Yair Caleb. Yair, c'est son prénom, Caleb, son nom de famille. Mais le prénom, j'ai jamais eu. En Caleb, ça fait... Caleb ponctué différemment, ça fait Caleb. Ouais. Sinon, c'est peut-être un peu...
C'est pas génial. Mais les prénoms bibliques, à part les noms des 12 tribus, sont peu usités. Hein. Du Tanakh, oui. Mais de la Bible, il n'y a pas beaucoup. Enfin,
je voudrais juste rajouter encore un dernier point par rapport à ce, juste deux secondes. Par rapport à ce que j'ai dit. Par rapport, juste deux secondes, par rapport à ce que j'expliquais au symbole de la lettre E. Je suis désolé, aujourd'hui on dépasse un petit peu. Par rapport à la lettre H, la raison pour laquelle, la raison pour laquelle dans le H, l'action est séparée du reste, on a expliqué parce que c'est deux mondes différents, et c'est aussi une autre chose que j'ai oublié de dire, c'est pour nous montrer que, on a dit que l'action c'est le matériel, et pour nous montrer que l'action, le matériel, il doit toujours aspirer à monter vers le spirituel. On doit toujours sentir, il doit toujours sentir qu'il y a comme une sorte de séparation et qu'il faut toujours monter. Et que le problème du chet, c'est quoi? C'est qu'on oublie qu'il y a une séparation entre les deux. On dit non, mais c'est bon, moi c'est bon, le spirituel et le matériel, c'est déjà lié. La raison pour laquelle c'est séparé, pour nous dire toujours que on a ici l'action qui se sent séparée et qui veut toujours remonter. Bon, en tout cas, le message, on l'a compris. Une aspiration.
Vérifiez vos lettres.